Il fallait attendre 2026 pour voir des bons gros blockbusters comme Star Wars devenir moins rentables que des films d'horreur faits par des jeunes comme Backrooms. Tout est dit. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film Backrooms ou Les Arrières-Salles, titre québécois, qui est littéralement la traduction directe. Il s'agit d'un film de science-fiction horrifique américain produit par A24 et réalisé par un certain très jeune Ken Parsons. Je déconne pas, hein, il doit avoir 20 ans, physiquement et mentalement il en fait 30. Je dis ça, je dis rien. Il est décrit comme un youtubeur, mais je trouve cette appellation un petit peu réductrice par rapport à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un artiste connu pour ses courts-métrages horrifiques, dont YouTube fut son meilleur support. Cette correction est importante car beaucoup risquent de s'attendre à un genre de Mr Beast, alors que pas du tout. Il est notamment connu pour sa web-série fun footage d'anthologie Backrooms, qui a percé en 2022, série qui a motivé les producteurs à le contacter. Le film Backrooms est donc dans la directe continuité. Au démarrage, ça me paraissait un peu inutile de réaliser un film sur les Backrooms, car une série l'avait brillamment fait. C'est Vrance. Et je vous invite à aller voir ma vidéo consacrée à ce sujet, car j'avais justement développé tout un chapitre sur le concept des Backrooms, qui fait partie de la longue liste des creepypastas. Et si vous aimez vous faire peur, vous pouvez également jeter un petit coup d'œil à ma dernière vidéo bonus où je suis légèrement sur les nerfs, frisson garanti. Il s'agit de mon avis sur une série que je n'aurais jamais dû voir, Jessica Jones. Cette série éclatée que tout le monde adore, que j'ai regardée très tardivement, et c'est une des rares fois où je pense avoir été trop loin dans mes propos.
Cette série explique aux jeunes filles adolescentes comment il faut faire pour se comporter dans le nouveau monde. C'est-à-dire qu'il faut se comporter comme une...
Comme toujours, le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Je remercie les gens qui me soutiennent financièrement. Si vous avez déjà entendu parler du film Backrooms, c'est tout à fait normal puisqu'il est sorti le 29 mai 2026 aux États-Unis. Et si je ne vous en parle que maintenant, c'est tout simplement parce qu'il est sorti beaucoup plus tard en France. Déjà 260 millions de dollars au box-office mondial pour un budget minuscule de 10 millions avec des retours positifs de la critique. Ce film s'est notamment fait connaître avec obsession pour avoir ridiculisé des blockbusters jadis mondialement connus comme Star Wars avec le film The Mandalorian. Et ce, en les surpassant en termes de rentabilité, donc voyons si ça tient ses promesses. Après un échange quelque peu farfelu avec son patient, une psychothérapeute se retrouve forcée de plonger dans l'inconnu pour tenter de retrouver ce dernier. Celui-ci a découvert un univers particulier, comme si notre monde n'avait pas fini de nous apprendre des choses. J'ai l'impression d'être le dernier critique à vous proposer une vidéo sur Backrooms, et c'est rare qu'un film qui sorte aussi tard en France ne bénéficie pas d'avant-première. Et vu que je suis un vilain petit canard, je n'ai pas eu le droit à quelconque invitation, comme d'autres de mes confrères. Disons que c'est le prix à payer pour dire un petit peu plus ce que je pense, sortir mes vidéos plus tard. Et oui! En tout cas, je constate que pour une première séance, un second jour de sortie de film, eh bien, la salle était quand même pas mal remplie. Enfin, c'était pas rempli, mais il y avait pas mal de monde. Et pour une question de principe, je pense qu'il est préférable avant tout de vous parler de la forme avant de vous parler de l'histoire. Backrooms est un film qui parle avec les images, mais ceci dit, j'avoue que je m'attendais pas à ce que le film ait un scénario. Je m'attendais vraiment, comment dire, à une longue fresque de silence, ce qui est en partie le cas dans certains moments, mais tu sens que dans le fond, il y a pas mal de choses à raconter. C'est une alternance entre un style found footage, le fait qu'on a l'impression d'assister à des archives perdues, provenant de vieilles caméras vidéo, et le style d'un film normal avec un découpage beaucoup plus classique. Généralement, les réalisateurs de found footage qui s'engagent dans des films normaux se plantent toujours. Je pense par exemple à Rec 3. Vous avez eu Rec 3? Je trouve Rec 3 vraiment pourri de chez pourri. C'est là que tu vois que le mec qui a réalisé et qui a travaillé sur les premiers n'a pas vraiment le talent d'un film beaucoup plus classique. Alors j'allais prendre l'exemple également du projet Blair Witch, parce qu'il me semble que le 2 a un format de film classique par rapport au premier qui lui est du found footage, sauf que ce n'est pas le même réal. Mais on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un plantage à l'arrivée au cinéma avec ce découpage beaucoup plus classique, et pas du tout, pas du tout. Le cadrage est extrêmement propre, très froid, neutre, droit, avec une forte inspiration à la Kubrick. Mais surtout, le film va beaucoup jouer sur le sentiment de nostalgie macabre. Une nostalgie qui qui te traverse le corps comme ça. Et pendant tout le film, j'ai pas arrêté de me dire, attends, ça a vraiment été réalisé par un mec de 20 ans, 21 ans, au moment où je m'enregistre, c'est pas une blague, il vient d'avoir 21 ans. Ça a vraiment, enfin, au moment du tournage, il devait avoir entre 19 et 20 ans, ça a vraiment été réalisé par un mec de 20 ans, ce truc-là. Mais c'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. J'ai jamais vu un mec de 20 piges, né après les années 2000, comprendre aussi bien les années 90, parce qu'il y a une forte inspiration des années 90, notamment pour créer cet effet found footage avec les vieilles caméras, les caméras cassettes. Et ayant grandi justement dans les années 90, j'ai eu l'impression de voir un film qui était en train de manifester une vieille angoisse dans mon enfance, rien qu'avec son atmosphère. Ce sentiment d'être petit et de te retrouver tout seul dans une pièce géante, de te retrouver perdu. Est-ce que vous avez déjà fait ce rêve quand vous étiez petit, de vous retrouver perdu, de chercher vos parents? Moi, j'avais fait un rêve qui m'avait troublé quand j'étais petit. J'étais à l'arrière de la voiture, je m'avance et je vois qu'il y a personne à droite, personne à gauche. La voiture conduit toute seule. Ça m'avait angoissé. Des espèces de cauchemars où je perdais mes parents. Ce qui me provoquait ce genre de cauchemar, c'est le fait d'être perdu de ma couette. Mais ce sentiment étrange de te retrouver dans une pièce, chez toi, dans des couloirs très étroits. Ce film retranscrit tellement bien ce sentiment de cauchemar. Car il faut noter ce sentiment de réel lors des phases found footage. On a vraiment l'impression que ce sont des caméras réelles qui ont filmé ces choses étranges, avec l'effet de vieille pellicule pour renforcer l'authenticité. Alors, c'est cliché, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Il y a aussi ce sentiment de choses étranges qu'on peut retrouver parfois dans les vieux enregistrements de VHS. Voilà, encore une fois, si vous ne connaissez pas bien les VHS, si vous n'avez pas vécu cette époque-là, vous ne pouvez pas comprendre. Mais ce mec-là, il a tout saisi. Il y a une séquence, alors je ne vais pas tout spoiler le film, mais il y a une séquence où le personnage principal observe une VHS avec une archive, une particule, une coquille, qui apparaît à la fin, qui crée le mystère. J'ai une anecdote par rapport à ça. Je me souviens quand j'étais petit, encore une fois, donc ça reflète vraiment l'enfance. Mais quand j'étais petit, j'avais fait une pyjama party avec un pote qui lui était un petit peu trouillard, je me souviens, et il dormait déjà très tard la nuit. Moi, je dormais pas. Il écoutait une sorte de cassette pour s'endormir, une cassette audio. Et pendant que lui dormait, moi je dormais pas. Mais à la fin de cette cassette, au moment, enfin c'était un truc d'enfant avec une musique. Et au moment où la musique s'était arrêtée, il y avait un bruit qui faisait je vous jure que c'est vrai, c'est une anecdote réelle que j'ai vécue quand j'étais petit. Cette cassette avait fait un bruit bizarre à la fin, alors je me suis pas posé plus de questions, j'étais assez effrayé comme ça. Tous ces phénomènes un petit peu étranges qu'on peut retrouver avec l'effet vieille cassette, vieille caméra, c'est une chose qui est vachement bien retranscrite dans ce film Backrooms. Donc on a une atmosphère vraiment saisissante. Et même lorsque les personnages se retrouvent dans la réalité, on se demande à quel niveau de réalité ils sont. Le même genre de questions qu'on pouvait se poser par exemple dans un Inception. Par exemple, dans la réalité, on a des mobiles liés et des bâtiments tous très droits, très colorés, en cohérence avec la même colorimétrie qu'on retrouve dans les Backrooms, avec ce fameux jaune pipi très inspiré de la première image qui a créé cette légende urbaine. Et plus on s'enfonce dans les Backrooms, plus on s'enfonce dans un sentiment de cauchemar. Et moi, je vous invite fortement à regarder cette vidéo que je vous mets en lien en notation. C'est une vieille archive datant de 19 ans. La vidéo a 19 ans, donc c'est une relique. Une publicité de canapé ayant pour titre Flea Market Montgomery, avec le présentateur Sammy Stephens qui faisait une publicité pour ses canapés, pour un magasin de canapés, de lits. Come shop with us, I said Flea Market Montgomery. Et c'est en partie ça qui a inspiré ce film, parce que ce film va directement parodier cette publicité que Michael Youn aussi avait parodié dans le film Fatal. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce qu'il y a justement une atmosphère extrêmement étrange dans cette publicité qui pourtant est hilarante. Elle est connue justement parce qu'elle est kitsch et hilarante. Mais il y a quand même cette atmosphère extrêmement bizarre, ce côté fermé, on se sent cloisonné. Il y a un sentiment de claustrophobie, et notamment sur cette image. Regardez comment cette image est vraiment bizarre. Déjà, ce qui est rigolo, c'est que le personnage, le présentateur, a vraiment pris soin de porter des costumes en cohérence avec les couleurs du mobilier. Et là, par exemple, sur cette image, il a des costumes en raccord avec les couvertures du lit. Mais genre, à l'arrière, il y a une profondeur de champ extrêmement étrange. Les lumières sont quasiment éteintes vers le fond. Et on se dit, c'est très bizarre quand même, il y a un sentiment très étrange quand on regarde cette image. On a presque l'impression qu'une sorte de créature géante va surgir de tout ça. Et donc le film va directement parodier cette vieille publicité. Ce qui est énorme, c'est que cette image, enfin cette vidéo qui date de 19 ans, qui a cumulé plusieurs millions de vues, on a plein de commentaires qui vont faire des blagues par rapport au film. Genre, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dans la cave. Avec ça, on a un sound design terrifiant. Les bruits de la pellicule et les mouvements de caméra, enfin à chaque fois que la caméra en fond de footage fait une rotation, on a un gros bruit, ce qui rend la chose effrayante lorsqu'on s'attend à voir une créature apparaître derrière. Mais parfois, son design est en trop. La musique a parfaitement compris qu'il fallait laisser le film respirer, laisser des absences. Mais le sound design, parfois, m'a semblé vraiment... Je sais pas, des fois, ça méritait un peu plus de silence pour augmenter ce sentiment d'angoisse. Mais voilà, il y a la musique qui a compris comment il fallait faire, avec parfois des petits sons sympathiques, un thème principal avec des notes désynchronisées pour renforcer le malaise, et une musique de fin vachement top. Mais donc, c'est là que je viens maintenant sur le fond. Là, on a parlé de la forme, on va parler un peu plus du fond. Il y a... Dans le film, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. La plupart des défauts que je vais soulever proviennent de l'écriture. Défauts qui nous montrent, évidemment, que le film est imparfait. Première chose, le mur. Voilà. Alors, je voulais en mille. Pour trouver l'endroit des backrooms, le personnage principal traverse un mur. Et là, je me suis dit, c'est dommage. C'est dommage parce que, dans mon imagination, je pensais vraiment que le héros allait tomber sur les backrooms par le biais d'une porte, d'un trou, je ne sais quoi, mais le fait de créer un mur qu'on peut traverser par magie, ça casse l'effet science-fiction, l'effet psychologique. Quand il va voir sa psychologue, il explique qu'il va revenir avec des preuves. Moi, je me dis, mais de quoi tu parles? La preuve, elle est là. La preuve, c'est ce mur que tu peux traverser. C'est magique, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de chercher les preuves. Le côté magique est là. Et en fait, c'est le seul aspect magique. Ça aurait été génial qu'il n'y ait pas de mur à traverser. Juste un trou, voilà, un trou caché derrière un meuble, je sais pas, il déplace un meuble, il se découvre qu'il y a un trou à Silent Hill, parce que ce film ressemble beaucoup à Silent Hill. Silent Hill, c'est complètement ça. Il y a des moments où t'as le personnage, genre James, qui déplace une armoire, il y a un trou, il traverse le trou, puis là, il se retrouve dans une autre pièce de façon absurde. C'est complètement ça qu'il fallait faire. Là, on est vraiment sur de la magie pure et dure. C'était finalement plus un film de science-fiction, c'est plus... Alors, c'est complètement un film psychologique. Mais on est dans un mélange de science-fiction, de fantastique et de psychologie. C'est vraiment dommage pour ce mur. Alors j'imagine que c'est en rapport, c'est pour être cohérent avec la légende urbaine des Backrooms, mais ça aurait été vraiment génial qu'on ait vraiment ça, une porte cachée quelque part, juste ça, voilà. Et comme ça, on laisse notre imagination faire le travail, voilà, pour savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ces endroits? Est-ce que ce sont des gens qui ont créé tout ça? Est-ce que c'est la Terre qui nous cache des secrets? Voilà. Et là, ça nous emmène à un autre défaut du film, c'est que la première partie, la première moitié est impeccable parce qu'on laisse le calme et le silence faire le travail. Mais lors de la seconde moitié, lorsqu'on commence à suivre le personnage féminin, le film commence à se dire « j'ai peur que le public ne comprenne pas, donc je vais leur expliquer ». Voilà, il y a une phase dans le film, à partir de la seconde moitié, où les deux protagonistes principaux vont s'asseoir sur une table et tout nous expliquer. Et moi je lui dis « ah ». Et bah c'est perdu. Voilà, ils ont manqué le coche de conserver le mystère, parce que par exemple on décrit littéralement ce qu'est le backroom. Il y a une description qui est parfaite, c'est le fait de dire, imaginez décrire ce qu'est un chien à quelqu'un qui n'a jamais vu un chien et de lui demander de dessiner après. C'est la description parfaite de ce qu'est les backrooms, donc le fait qu'on ait un environnement qui va refléter des souvenirs mais sans jamais les avoir vus. Et donc, en gros, une retranscription de ce qu'il pense, de ce qu'est un être humain, par exemple, ou un mobilier. Donc, des souvenirs un peu confus. Et en fait, le film va vraiment tout expliquer. Le rapport à la psychologie, le trouble du personnage principal. Et c'est vraiment dommage, parce que durant tout le long, tu aurais très bien pu le comprendre par toi-même. Et dans le pire des cas, même si tu l'avais pas compris, on avait l'ambiance qui se serait chargée de tout le reste. Voilà. Tu me retires peut-être 20 bonnes minutes. Tu aurais eu un film court et intense avec des séquences pour poursuite. Alors certes, je vois des gens dire que c'est un peu répétitif. Pour moi, c'est pas ça le problème du film. Le problème du film, le fait que ce soit très long, parce que lorsqu'on alterne les séquences normales et found footage, on a des séquences très longues, mais c'est justement ça qui est génial. Parce qu'on a l'impression d'être enfermé avec ces personnages. On a l'impression de vivre ces aventures coincées, cloisonnées. Et ça, plus la séquence est longue, plus on a l'impression de s'engouffrer avec eux et de renforcer le sentiment de claustrophobie. Donc pour moi, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Le vrai défaut, c'est l'écriture, qui se plante lors de la seconde moitié. Mais attention, c'est pas pour autant que le film est raté, contrairement à ce que beaucoup disent. Malgré l'ambiance cynique, le comportement des personnages est parfaitement réaliste, à part justement ce côté incohérent par rapport à l'aspect magique du mur que tu peux traverser. Donc lors de la première moitié, on a un comportement de personnage vraiment réaliste, fortement renforcée par la qualité des acteurs qui sont extrêmement bons. Et c'est vrai que je me suis dit que pour un film qui a coûté aussi peu cher, les créateurs ont eu un bol de cocu de se mettre dans la poche un acteur aussi connu que Chiwetel Ejiofor, qui va donc incarner ce personnage de Clark, mais c'est un acteur vraiment très connu qui a joué dans les Marvel, dont la réputation, j'imagine, a fortement joué sur le succès du film en salle. Mais il est extrêmement bon dans ce film. Lorsqu'il découvre l'univers des Backrooms, il a une réaction des plus qu'humaines. Il a le comportement que moi j'aurais si je découvre cet univers. Il est accompagné d'une actrice que je connais pas très bien, Renate Reimt, alors la prononciation, je suis désolé, j'ai du mal, mais qui incarne le personnage du docteur Mary Klein, qui est excellente elle aussi. Et c'est pareil, on se croirait vraiment dans un Silent Hill, notamment sur la fin du film, avec ce sentiment d'angoisse lorsqu'elle veut s'échapper, enfin le moment où le film se transforme un peu en slasher. Et bien on la voit épuisée, avec les cheveux décoiffés, enfin c'est hyper bien fait. Et même si on a beaucoup de scènes en extérieur, on a ce sentiment, encore une fois, d'être renfermé, un petit peu comme une sorte de huis clos. Et tous les acteurs sont accompagnés de dialogues vraiment très bons. Alors j'imagine que les acteurs, vu qu'ils sont expérimentés, nous font part d'une sorte d'improvisation, et c'est vraiment, vraiment réussi. C'était donc le film Backrooms. Voilà pourquoi, selon moi, il cartonne au box-office et qui met une fessée au blockbuster qui ne pige plus rien à ce que recherchent les gens. Même si, attention, attention, je constate que le film reçoit un accueil plutôt mitigé. Me concernant, je ne comprends pas comment on ne peut pas être pris dans ce film. Il y a une telle atmosphère, c'est expérimental, plus un essai artistique qu'un véritable film. Et ce qui est rigolo, c'est que je suis d'accord avec les critiques négatives. Tout ce qui est décrit dans le film, et les défauts que je vous ai cités durant ma vidéo, sont bien réels, mais selon moi, ce n'est pas suffisant pour en faire un film décevant. Ce n'est pas suffisant pour en faire un film décevant, et encore moins un film mauvais. Et surtout de la part d'un premier jet, faut vraiment garder ça en tête, c'est incroyable. Donc moi, j'ai été pris dedans, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais pour l'heure, il n'a clairement pas volé sa réputation. En tout cas, évidemment, comme je dis à chaque fois, ce n'est que mon avis, et c'est pourquoi je vous invite à me faire part du vôtre dans les petits commentaires, comme chaque fois j'y prêterai attention. Et avant de quitter, n'oubliez pas le lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé de ma nouvelle vidéo bonus pour me soutenir financièrement. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, likez pour rigoler. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.